Chapitre 66. Parmi les blocs gris patinés par le temps, il n'a pas été difficile de repérer la tombe récente sur laquelle les marbriers n'ont pas encore gravé le nom du défunt. Dans le modeste cimetière, M. Forsetti, bien habillé pour l'occasion, me précède.
« Merci d'avoir accepté de m'accompagner, »
souffle-t-il. « Je vous en prie. » Parvenu devant la sépulture, il s'immobilise. Le visage grave, recueilli, il se tient très droit, les mains cérémonieusement croisées devant lui. Je lui laisse son espace. Le monolithe de granit sombre est tellement poli que, même dans la grisaille, il brille. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de m'incliner sur des tombes. Le cimetière est désert. Nous sommes les seuls debout au milieu de cette assemblée de gens étendus. Deux éveillés au pays de l'éternel sommeil. Au-delà du mur d'enceinte, les branches des arbres qui bourgeonnent s'agitent. Mais le vent ne s'aventure pas jusqu'à nous. Et les rares végétaux qui jalonnent les allées demeurent immobiles, au point de ressembler aux plantes en plastique décolorées par les années qui ornent certaines tombes. La vie se tient hors des limites du lieu.
Voilà plus de 20 ans que je n'ai pas été physiquement aussi proche de mon frère.
Je garde le silence.
Ça me fait bizarre de me dire qu'il est allongé là, si près.
Quel curieux tandem nous formons. Lui qui ne l'a jamais revu et moi qui ne l'ai jamais connu. Nous vivons tous les deux la cérémonie d'obsèques à laquelle nous n'avons pas été conviés. Pourtant, j'ai beau essayer, je n'arrive pas à m'émouvoir. Je me concentre surtout sur M. Forsetti, qui, lui, vit l'épreuve avec une intensité qui se lit sur ses traits.
Vous ne vous sentez pas concernée, Amandine ?
Surprise qu'il ait deviné mes pensées, je ne sais que répondre.
C'est bien normal. Vous n'avez rien vécu avec lui et vous êtes si jeune. À vos yeux, la mort n'est encore qu'un vague concept qui concerne surtout les autres. Je pensais la même chose il n'y a pas si longtemps. Mais ici, devant la dépouille de Christophe, ce que j'affronte est différent. Ce n'est plus un concept, ni un rituel. Je mesure ce que le temps provoque lorsqu'il condamne certains futurs à devenir impossibles. L'envisageable appartient désormais au passé. Là, auprès de son corps sans vie, je comprends ce que plus jamais signifie.
Vous ne l'avez pas déjà ressenti lorsque vos parents sont décédés ?
Étrangement, non. C'était dans l'ordre des choses. Cette fois, c'est différent. On ne s'attend pas à ce que ceux avec qui on a découvert la vie nous entraînent au-delà.
Je voudrais pouvoir le réconforter. Faut-il que je me rapproche ? Que je le fasse parler de leur enfance ? Nell dirait qu'évoquer les souvenirs peut présenter un risque.
Amandine, je veux être incinérée.
Pourquoi me balance-t-il ça comme ça ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je suis désolée, je n'ai pas de briquet sur moi et de toute façon, l'usage consiste à attendre que vous soyez décédée. Ce qui est loin d'être le cas. Alors même avec de la bonne volonté, ça va être compliqué. Il tourne la tête vers moi et me dévisage. Je ne sais pas s'il est choqué ou amusé. Je baisse les yeux. Pardon, c'était pour alléger l'ambiance. Même si ce n'est pas d'un goût...
Ne vous excusez pas, c'est très drôle.
Il reste un moment silencieux. Une petite dame sortie de nulle part s'est engagée dans l'allée et remonte lentement vers nous. Toute de noir vêtue, elle marche avec une canne, le dos voûté. Elle tient à la main un bouquet très coloré. Elle s'approche encore. Je me prépare à lui laisser le passage, mais sans crier gare, elle dépose délicatement ses fleurs sur la tombe devant laquelle nous nous recueillons. J'interroge M. Forsetti du regard pour savoir s'il la connaît. Il me fait signe que non.
« Vous connaissiez mon Jean-Louis ?»
nous demande la dame.
« Votre Jean-Louis ?»
s'étonne M. Forsetti.
« Oui, mon mari. Vous êtes sans doute de sa famille du Sud.
« Chère madame, je suis désolée, mais c'est la tombe de Christophe Bélanger. »
Elle fronce ses sourcils blancs.
« Pas du tout. C'est celle de mon Jean-Louis. Je l'y ai placée moi-même, voilà 11 jours aujourd'hui. »
J'interviens. « C'est bien la Légie ?»«
Non, c'est la haine. La J est là-bas. »
Elle montre la direction avec sa canne. « C'est ainsi qu'après nous être recueillis avec tant de ferveur sur la tombe d'un parfait inconnu, nous changeons d'allée pour aller accomplir le même cérémonial devant une autre pierre tombale, beaucoup plus imposante,
sur laquelle les marbriers n'ont pas davantage effectué leur besogne.
« Ce coup-ci, s'enquiert M. Forsetti, vous êtes certaine que c'est la bonne ?»«
Pas de doute. Allez-y. » Il se remet en position. Rebelote. Visage fermé, mains croisées. Mais forcément, la deuxième fois, l'émotion n'est plus de toute première fraîcheur. C'est ballot parce qu'il était tellement émouvant devant la tombe de Jean-Louis, alors que là, j'ai l'impression qu'il n'y croit plus. Pourtant, c'est maintenant qu'il est réellement au plus près de son frère, maintenant qu'il se penche sur sa dépouille. Comme quoi, c'est d'abord l'idée que l'on se fait des choses qui compte. Ses épaules sont agitées de légers soubresauts. Il pleure. Pour le soutenir, je m'approche et je pose la main sur son bras. Mais lorsqu'il se tourne vers moi, je m'aperçois qu'il ne pleure pas. Il rit. Il rit même de plus en plus fort. J'espère qu'il ne va réveiller personne. À voix basse, un peu gêné, je l'interroge. Qu'est-ce qui vous arrive?
J'ai tout donné sur la tombe d'avant. Là, j'ai plus rien.
Il secoue la tête, se reprend peu à peu, ferme les yeux et inspire à fond.
Christophe, bon sang. Tu me manques depuis si longtemps. Depuis ce dernier après-midi où nous étions dans ta chambre, complices, ignorant encore que maman s'apprêtait à m'emmener vivre ailleurs. Depuis, tous les jours, plus que ça même, j'ai songé à toi. Je ne savais jamais où tu étais, j'ignorais ce que tu pensais. Dès que j'ai pu, je suis revenue vivre près du seul endroit où j'avais une chance de te retrouver. Le lieu d'un rendez-vous où je serais arrivée le premier. Terré comme un passager clandestin de ta vie, guettant les vacances en espérant que tu débarquerais avec ta famille. N'attendant que de pouvoir te regarder vivre à distance, caché, en priant pour qu'un jour tu reviennes vers moi. Je n'ai vécu pour rien d'autre. Dieu m'en est témoin. Mon frère, j'ai tout sacrifié à l'espoir de renouer avec toi. Je t'ai observé de loin, je t'ai écrit. Mais je crois que ta femme a réussi à saboter mes tentatives. Aujourd'hui, je suis comme un con devant toi, à me demander à quoi tout cela aura servi. À rien, Christophe. À rien du tout. Les parents ont détruit notre complicité et ta femme a ruiné nos chances de nous revoir. J'aurais tellement voulu qu'on se parle. J'aurais tellement voulu qu'une fois encore, on puisse partager une journée comme celle dans les maïs. Tu me manques tellement.
Cette fois, il pleure. Le visage baigné de larmes, il se tourne vers moi.
Amandine, sur la tombe de mon frère, je vous le dis. N'attendez jamais que les autres vous permettent de faire. N'espérez jamais que des gens vous disent que vous avez raison. Ne misez sur rien d'autre que vous-même pour changer votre vie.
Ne faites pas comme moi. Soyez libre. Cette vie n'est qu'une attraction de fête foraine.
Les lumières, les musiques, tout tourne autour de vous. Et ça démarre à peine que vous devez déjà vous accrocher. Parce que ça fait tout le temps des loopings. Ça monte, ça descend, ça donne le vertige et ça fout la nausée, mais ne vous y trompez pas. C'est une chance. Ne laissez votre place à personne, car vous n'aurez droit qu'à un seul ticket. J'ai loupé l'occasion de vivre autre chose que des regrets. Que notre rencontre serve au moins à vous épargner ça.
Vivez. C'est votre tour de manège.